Vous écoutez On lit pour vous.
Le cœur tatoué a ses raisons. Un texte de Judith Lachapelle paru le 29 avril 2026 dans la presse. Le Canadien, la musique d'Angine de poitrine, la série télé Heated Rivalry. Ces derniers mois, nous sommes des millions à être tombés en pamoison à l'unisson devant des joueurs de hockey ou de guitare. À l'ère de la fragmentation et de l'individualisme, aurions-nous oublié combien l'appartenance au groupe est irrésistible? Est-ce le printemps frais et tardif? Est-ce l'actualité mondiale déprimante? Est-ce l'angoisse d'être remplacé demain matin par des robots? Est-ce un peu tout ça qui cause d'improbables coups de cœur ces derniers temps? Difficile à dire, mais c'est quand même beau à voir. Il y a quelque chose de fascinant à observer trois phénomènes viraux dans lesquels beaucoup se sont réfugiés depuis le début de l'année. La série télé de romans sportifs Queer Heated Rivalry, la musique microtonale extraterrestre d'Angine de poitrine et l'enthousiasme contagieux entourant le Canadien, de l'attente insoutenable du 50e but de Cole Caulfield à cette série éliminatoire extatique qui nous laisse fourbus un soir sur deux ou trois. Dans les trois cas, il s'agit aussi de phénomènes viraux aux racines québécoises qui débordent de beaucoup notre coin de planète. L'action de Hated Rivalry, série réalisée par le Montréalais Jacob Tierney, se déroule en bonne partie dans la métropole. Les gars picotés d'Angine de poitrine viennent du Saguenay et le Canadien a ses admirateurs partout dans le monde. On dit ça, on dit rien. Comme si, récemment, nos cerveaux sursollicités, pour essayer de rationaliser un flot ininterrompu d'informations insensées, s'étaient trouvé une façon d'échapper au stress en se jetant dans les bras d'une de ces communautés de cœur battant, ou que nous en avions eu marre en même temps d'être toujours seuls devant nos écrans. Les gens cherchent des choses qui leur donnent de la joie, des communautés auxquelles se rattacher, dit la professeure de marketing à l'Université d'Ottawa, Myriam Brouard, qui s'intéresse justement à l'intensité dans laquelle certains d'entre nous basculent quand ils tombent en amour avec une œuvre. Elle a d'ailleurs consacré son doctorat à la consommation de séries télé en rafale, le fameux binge-washing. Sinon, quoi d'autre pourrait expliquer ce coup de foudre délirant pour la série romantique « Heated Rivalry »,« Rivalité passionnée » en français? Bien sûr, l'histoire est bien racontée. Bien sûr, les acteurs ne sont pas en panne de charisme. Mais quand même, Myriam Brouard, qui a observé le phénomène se répandre dans de nombreux pays depuis décembre, est encore soufflée par la rapidité de l'embrasement. « J'ai jamais vu ça », dit-elle. De façon évidente, plus le groupe est nombreux, plus il attire de nouveaux membres dans son orbite. Si les fans du tricolore se vantent d'avoir le CH tatoué sur le cœur, celle de Heated Rivalry, parce que ce sont très majoritairement des femmes, se font maintenant littéralement tatouer des répliques sur le corps. Déjà, ces fans savent que c'est quelque chose qu'ils veulent avoir sur eux pour le reste de leur vie, dit Mme Brouard. Si c'est pas de l'amour, ça. La constitution d'une communauté de fans, le fandom, prend habituellement du temps. Le Canadien cultive la sienne depuis un siècle. Mais celles de Heated Rivalry et d'Angine de poitrine sont passées, en l'espace de quelques semaines, d'un noyau de quelques mordus marginaux à une immense communauté de nouveaux passionnés emportés par la déferlante. Ça part d'un choix personnel de s'intéresser à quelque chose, mais il y a une grosse partie de collectif qui enracine le sentiment, observe Fanny Valois-Nadeau, professeure de communication à l'Université TELUC. La dimension collective joue sur l'importance de l'intensité. Elle nous relie à d'autres personnes qui nous entraînent dans cet engouement. Le fait de parler et de partager sa passion est un élément amplificateur et multiplicateur, dit Fanny Valois-Nadeau. Pour elle, le fandom de hockey est passé à un autre niveau avec l'apparition des lignes ouvertes, les tribunes téléphoniques des émissions de sport. C'était des espaces où les gens pouvaient commenter, donner leur avis, montrer leurs connaissances, dit-elle. Aujourd'hui, les balados et les forums de discussion en ligne ratissent encore plus large, créant autant de micro-communautés dans lesquelles tout le monde peut finir par trouver une place. Ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, au hockey, les femmes ont mis du temps à faire leur place dans ces communautés de mordus. Historiquement, les femmes ont été marginalisées dans ce créneau. Elles ont été peu représentées, dit Fanny Valois-Nadeau. Les femmes doivent généralement faire leurs preuves avant d'être acceptées dans les fandoms pour avoir l'air aussi légitimes que les hommes, montrer qu'elles en savent autant qu'eux, observe la chercheuse. Il n'y a pas que la joie de tomber en amour et de pouvoir le dire à la communauté. Il y a aussi celle de voir d'autres personnes être foudroyées par cette joie. Dans le flot de clips vidéo qui font le bonheur des fans, il y a ces multiples scènes qui montrent des personnes qui réagissent à un événement dont on connaît déjà l'issue. Comme la raillerie d'un mélomane qui écoute Fabien dans Gine de Poitrine pour la première fois. Ou ces cris de joie captés dans un bar ou dans le salon de l'ancien joueur Pique Souban au moment précis où un but gagnant est compté. Comme si, en scrutant la réaction des gens, en sachant déjà ce qui va se passer dans quelques secondes, on pouvait revivre ce moment d'extase et de bonheur, encore et encore. Et valider du même coup, auprès d'autres humains, cet élan de joie tellement irrationnel, tellement pas artificiel, même si on sait qu'on risque de se retrouver le cœur brisé quand tout prendra fin. L'amour, Chris, comme dirait Louise Latraverse. Au fond, les êtres grégaires que nous sommes en reviennent toujours à ça. C'était « Le cœur tatoué à ses raisons », un texte de Judith Lachapelle paru le 29 avril 2026 dans la presse.
Est-ce qu'adopter un chien prépare à la parentalité? Un texte de Philippe Côté-Giguère, paru le 28 mai 2026 dans le magazine Urbania. Quand Gabriel, chef connu pour Molo, m'a demandé si je voulais m'intéresser aux couples qui adoptent un animal avant d'avoir un enfant pour partir avec une longueur d'avance, j'avoue être demeuré perplexe. Vraiment? Il y a des gens qui font ça? C'est donc bien bizarre. Puis, je me suis rappelé que ma conjointe et moi avions nous-mêmes eu un chien avant d'avoir notre premier enfant. Ah ben oui, c'est peut-être pas si bizarre finalement, que je me suis dit, incapable de soutenir mon regard dans le miroir plus de 2 secondes. Alors, est-ce que c'est vrai que ça aide? Quels sont les bénéfices d'une telle pratique? Pour que ça marche, l'animal et le bébé doivent-ils porter le même nom? Apprendre à se responsabiliser. Sur le web, j'ai lu quelques témoignages qui avancent que le fait d'avoir à prendre soin d'un pitou, bien que ce soit complètement, mais alors là, complètement différent, que de s'occuper d'un nouveau-né, permettrait de développer son sens des responsabilités, un atout essentiel quand on devient parent. L'adoption d'un chien, ça force effectivement les gens qui l'accueillent à devoir répondre à ses besoins, en le nourrissant plusieurs fois par jour, en ramassant ses petits cadeaux et en lui faisant prendre une marche, notamment. Les parents ont également recours à cette tactique pour développer l'autonomie des enfants. En étant en partie responsables d'un animal, ils apprennent à effectuer des tâches pas toujours plaisantes au quotidien, ce qui contribue à les rendre plus débrouillards avant de quitter un appartement. Ça, c'est s'ils ne décident pas de rester jusqu'à la fin de l'éternité. Développer une routine et la respecter. Selon plusieurs, avoir un animal chez soi serait aussi utile pour établir une routine, comme l'être poilu doit être nourri, abreuvé et sorti à des heures précises. Fini le temps où on pouvait découcher en dormant chez des amis, après une Saint-Jean un peu trop arrosée à Valleyfield. Un être vivant dépend de vous. Avoir des enfants, ça vient effectivement avec une routine à respecter, dans la mesure du possible, pour que les petits grandissent dans un environnement sain. Il peut donc être intéressant pour des gens qui souhaitent éventuellement devenir parents et qui fuient la routine comme l'antavirus, de l'apprivoiser en prenant soin de Gaston, le chien saucisse. Apprivoiser le chaos. Fonder une famille, et donc accueillir des êtres qui déplacent de l'air, et 800 gogos, ça veut aussi dire embrasser le bordel. Désolé de vous l'annoncer, mais votre demeure ne sera plus immaculée comme sur la page centrale d'un magazine de déco. Un chien aussi, ça vient avec une belle pelletée de bordel. Et ça peut aider les gens qui souhaitent devenir parents et qui n'y sont pas habitués à lâcher prise sur le rangement et la propreté qui passent souvent au second rang quand on fonde une famille. Parce qu'avoir un plancher un peu sale, des excréments sur un coussin ou un moustiquaire défoncé, ça fait partie de la vie. Savoir mieux communiquer. Un autre point soulevé pour encourager les personnes à prendre soin d'un animal avant d'accueillir un enfant est que la gestion du quotidien devient pas mal plus compliquée, ce qui force les partenaires, quand on est en couple évidemment, à communiquer davantage et de façon plus efficace, un atout d'importance à l'arrivée d'un bébé. Que ce soit pour établir l'horaire de la semaine, se répartir des tâches ou ventiler à la fin des journées plus difficiles, échanger régulièrement dans le respect avec sa douce moitié est d'une importance capitale. Et avoir un fidèle complice à quatre pattes à ses côtés force les gens à développer une meilleure communication. Par nécessité, comme pour demander « As-tu donné la pilule contre les vers du cœur à Gaston? » Les points de vue de spécialistes. Curieux de connaître l'avis de spécialistes en la matière, j'ai discuté avec la docteure Jade Zolo, propriétaire et vétérinaire à la clinique Station Vet, et la docteure Emmanuelle Fournier-Chouinard, fondatrice et directrice du Centre Humanimal, psychologue, intervenante et enseignante en médiation animale zoothérapie. D'emblée, docteur Zolo admet n'avoir jamais entendu parler d'une telle pratique. Elle est cependant bien au fait des abandons assez fréquents d'animaux en raison de leur difficulté à s'acclimater à l'arrivée d'un enfant. De son côté, Dr Fournier-Chouinard, qui développe une expertise autour des relations interespèces depuis maintenant 20 ans, stipule que des études ont confirmé les effets bénéfiques du compagnonnage entre espèces, notamment chez les enfants et les adolescents, afin de leur inculquer le sens des responsabilités. Elle précise cependant que l'adoption d'un animal, fréquente chez les jeunes couples, n'est habituellement pas réalisée dans le but explicite d'acquérir des habiletés avant d'avoir des enfants. Elle se produirait plutôt naturellement et contribue à découvrir l'autre sous d'autres angles dans sa façon de se comporter avec un petit être. Prendre soin d'un chien nous révèle aussi, possiblement, des côtés insoupçonnés autant chez soi que chez l'autre, selon la psychologue. Est-ce que ces nouvelles responsabilités me créent de l'anxiété? Mon partenaire est-il plus impatient que je ne le croyais? Notre façon d'être avec cet être vivant peut nous en dire long sur le style de parent qu'on serait. Il y a des chances que ce que tu vis avec ton chien, tu le vivras aussi avec ton enfant, ajoute-t-elle. Bien qu'elle croie qu'une rencontre interespèce soit très positive pour développer d'éventuelles compétences parentales, l'intervenante en médiation animale met en garde les personnes qui ne verraient leur chien qu'à des fins utilitaires. Il faut plutôt le voir comme un membre de la famille à part entière et non comme celui qui se trouverait sur un siège éjectable au moindre désagrément. Vous devez bien ça à Gaston. C'était Est-ce qu'adopter un chien prépare à la parentalité? Un texte de Philippe Côté-Giguère, paru le 28 mai 2026 dans le magazine Urbania.
L'intelligence artificielle exerce illégalement la médecine. Un texte co-signé par Marco Laverdière, qui est avocat, enseignant et chercheur associé en droit et politique de la santé, et Catherine Régiste, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, la chaire Canada CIFA en intelligence artificielle et droit de la personne. Le texte est publié dans la presse du 15 avril 2026. Au Québec, seuls les professionnels qualifiés peuvent faire des gestes à portée diagnostique ou thérapeutique, rappellent les auteurs pour qui il est temps de réagir face aux agents d'intelligence artificielle qu'ils comparent à des charlatans. Sam Altman, PDG d'OpenAI, disait en juillet dernier lors d'un événement organisé par la Réserve fédérale américaine, que les capacités diagnostiques de l'intelligence artificielle surpassaient dorénavant celles des médecins. Il y a en effet des développements importants, voire spectaculaires, pour plusieurs applications d'intelligence artificielle spécialisées en santé. Toutefois, comme l'indiquent des études récentes, les applications destinées au grand public, tant pour la santé mentale que pour la santé physique, présentent des risques encore très mal maîtrisés. Et ce, c'est sans compter les événements tragiques rapportés régulièrement par les médias, dont des suicides qui apparaissent liés à des interactions avec des agents conversationnels alimentés par l'intelligence artificielle comme Gemini ou ChatGPT en vue d'obtenir du soutien psychologique. Cette réalité soulève une question fondamentale. Qui devrait encadrer les applications destinées au grand public qui permettent d'obtenir des avis diagnostiques ou thérapeutiques? En principe, on sait que dès qu'il s'agit d'instruments médicaux, un processus d'homologation comme celui qui relève de Santé Canada est prévu avant que le produit puisse être mis en marché. Mais manifestement, pour les applications grand public, ce processus apparaît plutôt inopérant pour l'instant. On devrait alors pouvoir miser sur le Code des professions et les autres lois relatives à l'encadrement de la médecine et des diverses professions du secteur de la santé. Historiquement, de telles lois ont été adoptées pour protéger le public contre le charlatanisme en matière de santé et non pas pour accorder un privilège social ou économique à un groupe donné. Ces lois visent ainsi à garantir que seuls des professionnels qualifiés font des gestes à portée diagnostique ou thérapeutique. Bien qu'elles aient été conçues à une époque où l'on ne concevait le risque sous l'angle d'interaction humaine, les règles établies sont relativement claires quant aux limites qu'il ne faut pas franchir, même
pour les entreprises qui rendent les applications d'intelligence artificielle accessibles au public. Que signifie l'exercice illégal de la médecine en lien avec l'intelligence artificielle? Au Québec, la définition juridique du diagnostic est particulièrement large. Les tribunaux considèrent qu'il s'agit de toute démarche visant à identifier une maladie, un trouble ou un dysfonctionnement à partir de symptômes ou de méthodes scientifiques, y compris l'anticipation de malaise probable. La prescription, entre guillemets, quant à elle, est comprise comme toute recommandation thérapeutique. En pratique, même en l'absence d'un diagnostic explicitement formulé, le simple fait de recommander un traitement peut suffire à conclure qu'un diagnostic a été posé. Les développeurs se rassurent en ajoutant des clauses de non-responsabilité ou des mises en garde affirmant que l'outil d'intelligence artificielle ne remplace pas une consultation avec un professionnel qualifié. Or, au Québec, la jurisprudence mentionne plutôt que de telles déclarations ne suffisent pas à écarter un constat d'exercice illégal. La définition des activités professionnelles réservées peut varier d'un pays ou d'une province à l'autre, mais comme l'indique un texte paru récemment dans le Globe and Mail, les questions qui se posent au Québec en cette matière existent également ailleurs au Canada. Et le constat est le même, soit celui d'une forme d'inertie collective, d'autant plus que, contrairement à l'Union européenne et à d'autres pays plus avancés sur le plan législatif à ce sujet, nous ne disposons pas encore au Canada d'un cadre juridique global visant à encadrer et gérer le risque des développements liés à l'intelligence artificielle. Protéger le public sans compromettre l'innovation. Faut-il encore intenter des poursuites pour interdire les applications de santé fondées sur l'intelligence artificielle ou freiner leur essor? D'une part, si la finalité première des règles sur l'exercice illégal est la protection du public, il n'y a aucune raison de créer une zone d'exception spécifique pour les entreprises technologiques. Mais il faut aussi reconnaître que des outils d'intelligence artificielle hautement performants peuvent, dans certains contextes, améliorer l'accès aux soins et alléger la pression sur les systèmes de santé. Au Québec, à défaut de tester les règles déjà établies en matière d'exercice illégal des professions dans le cadre de poursuites contre les entreprises qui rendent disponibles des technologies à risque, nous avons l'occasion, avec l'exercice de modernisation du Code des professions qui est en cours, de réfléchir à ce que devrait être un encadrement propre à cette nouvelle réalité. Il s'agit là d'ailleurs d'une orientation clairement énoncée dans la politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne qui vient tout juste d'être dévoilée. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre innovation et protection, mais de sortir d'une certaine torpeur, de prendre la mesure des risques en cause et de mettre de l'avant une stratégie d'encadrement adaptée à cette nouvelle réalité. Fin de ce texte signé Marco Lavertière et Catherine Régis, sous le titre « L'intelligence artificielle exerce illégalement la médecine », publié dans la presse
collective n'ira de l'avant qu'au Québec. Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 28 mai 2026 dans la presse. La Cour suprême du Canada a refusé d'entendre une action collective au sujet de sacs faussement décrits comme recyclables pour toutes les provinces et territoires du Canada. Les Québécois concernés pourraient tout de même être dédommagés. L'action collective intentée par Sonia Cohen allègue que des sacs d'emplettes décrits comme recyclables, mais qui ne le sont pas au Canada, ont été vendus dans plusieurs chaînes connues au pays. Selon la requête, Dollarama, La Sac, Rona, Metro, Uniprix, Toys R Us, Costco et Tigre Géant ont induit les consommateurs en erreur. On croit que c'est intéressant, la question de la recyclabilité des sacs et de l'environnement, que c'est une question d'importance nationale, affirme en entrevue Maître Joey Zucran, fondateur de la firme LPC Avocat, un cabinet axé sur la défense des droits des consommateurs qui pilote l'affaire. Mais la Cour suprême entend juste 5 % des causes. Les statistiques ne sont pas en notre faveur, poursuit-il. Des sacs qui vont au dépotoir. L'histoire remonte à 2022. Sonia Cohen voit sur Facebook une publication de Tricentris, un important centre de tri au Québec, indiquant que les sacs réutilisables en vente dans différents commerces terminent leur vie dans les poubelles. Questionnée précisément au sujet des sacs Dollarama, Tricentris répond que ces sacs ne doivent pas être mis dans le bac de recyclage. Depuis, Dollarama a changé son sac. Mais à l'époque, on pouvait lire sur le sac « Je suis réutilisable et recyclable ». Il disait les deux, souligne Maître Joé Zucran. L'avocat explique qu'en faisant une enquête, il a découvert que de nombreux magasins se livraient à la même pratique. Pour appuyer le dossier déposé initialement en 2022, la demande d'action collective cite un rapport du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services CIRAIG, C-I-R-A-I-G, qui conclut que même si ces sacs sont décrits comme recyclables, ils sont mis au rebut par les centres de tri au Québec. Le rapport « Analyse du cycle de vie des sacs d'emplettes au Québec » a été préparé pour le gouvernement du Québec, Recyc-Québec. Peut-être qu'ils sont recyclables dans un endroit précis dans le monde, mais au Canada, quand on les met dans les bacs, ils finissent aux poubelles, soutient Maître Joé Zucran. En 2024, la juge Dominique Poulain a finalement autorisé Sonia Cohen à intenter une action collective fondée sur la loi sur la protection du consommateur et sur le Code civil du Québec en lien avec des allégations de représentation trompeuse relativement au caractère recyclable des sacs réutilisables vendus par les défendresses au Québec. Mais la juge l'a refusé pour le reste du Canada, tout comme la Cour d'appel, ensuite, et maintenant la Cour suprême. La firme LPC Avocats a, en parallèle, préparé une nouvelle action collective qu'elle a déposée devant la Cour fédérale du Canada au nom de tous les Canadiens. Pour le moment, il n'y a pas eu d'entente au Québec, donc l'affaire suit son cours. En attendant, les consommateurs qui ont acheté un sac avec la mention « recyclable » depuis le 16 avril 2019 dans l'un des magasins mentionnés peuvent s'inscrire sur le site de la firme d'avocats afin qu'ils soient plus facilement joignables en cas de règlement. Dollarama a changé ses sacs. « C'est un peu, selon moi, comme une admission et un aveu », ajoute l'avocat. L'action collective souhaite obtenir un total de 10 millions de dollars à titre de dommages-intérêts punitifs. C'était L'action collective n'ira de l'avant qu'au Québec. Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 28 mai 2026 dans La Presse.